Donc, aujourd'hui, nous allons parler des hommes. Je voudrais commencer dans Genèse, chapitre 2. Tout à l'heure, dans la prédication, on revient dans Éphésiens, chapitre 5. Mais pour la formation ce matin, nous commençons dans Genèse, chapitre 2 et le verset 18. Genèse, chapitre 2 et verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et vous savez, quand on parcourt donc Genèse chapitre 1, 2 et 3, et donc Dieu, il a fait toute cette création et toutes les choses étaient tellement bien, et Dieu avoue que toutes les choses étaient très bonnes. Il y a une seule chose qui n'était pas bonne, et c'était que l'homme était seul. C'était pas une faute, c'était pas une erreur, mais c'était qu'il y avait une chose qui n'était pas encore complète. Être mari, c'est partager sa vie. Dieu a pris la forme de l'homme, excusez-moi, Dieu a pris la femme, excusez-moi, la femme de l'homme pour en faire un couple. Adam, au verset 23, chapitre 2 et verset 23, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Dans le Hébreu, il dit, « Enfin !» Il s'exclame, il est tout content. Vous imaginez l'homme qui voit la femme la première fois de sa vie. Hein? « Oh là là, c'est quelque chose !» Hein? Donc voilà, c'est l'expression que Adam donne là. Partager sa vie veut dire ne plus être moi seul. Plus être seul, mais plus être moi seul, plus être égoïste. Si vous voulez être seul, si vous voulez être, on va dire, libre, restez célibataire. Si vous ne voulez pas gérer une femme, ou si vous ne voulez pas gérer les enfants, ou si vous êtes incapable de gérer une famille, eh bien, restez célibataire. Les décisions et les problèmes d'un célibataire ne concernent que lui-même devant la société et la loi. Mais les décisions et les problèmes d'un chef de famille, d'un chef de foyer, concernent non seulement lui-même, mais tous ceux qui dépendent de lui. Donc, encore, si ça ne vous intéresse pas ou si vous êtes incapable de gérer ça, restez célibataire. Tournez maintenant en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 6 et verset 14. 2 Corinthiens chapitre 6 et verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Alors il y a beaucoup d'applications de cette phrase. Ça peut être dans le business. Mais aujourd'hui, on parle des couples. Ce n'est pas bien qu'un chrétien se marie avec un non-chrétien. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas bien. Le mariage, c'est de vous mettre sous un joug entre l'homme et la femme. L'un côté, c'est l'homme, l'autre côté, c'est la femme. Il ne faut pas que l'un ou l'autre soit infidèle. Ce sera la racine de beaucoup de problèmes à l'avenir. C'est pas pour mépriser les incrédules, les non-croyants. Hein? C'est pas pour les mépriser, mais c'est pour dire que ni l'un ni l'autre peut vivre la vie qu'ils veulent vivre. Par la suite, parce qu'ils ont mélangé les choses qui ne devaient pas être mélangées. La relation homme-femme doit compléter. L'un doit compléter l'autre et ça ne doit pas être une relation contradictoire où l'un contredit l'autre. Ça, c'est construire dans la racine de ce couple le conflit. Et le conflit, à la fin, ça donne le divorce. Ok, donc ce n'est pas construire le conflit dans votre couple. Le joug, je le prononce correctement, le joug, bon, épelé J-O-U-G. Le joug, le joug signifie premièrement ensemble. On met le joug sur deux animaux, ou dans le cas du mariage, deux personnes. Ils sont ensemble. Le joug signifie aussi travail. Parce que quand on ne travaille pas, on enlève le joug. Le mariage est un travail à vie. Vous allez travailler ensemble. Ensemble. Dans un sens. Veut dire progrès. Et bonheur. Mais si vous ne travaillez pas ensemble, si vous travaillez contre l'un et l'autre, vous n'aurez que le malheur et les difficultés. Donc, quand on se marie, on se met ensemble pour faire face à la vie, dans la joie et aussi dans les douleurs. Le joug signifie aussi l'égalité, ou au moins ressemblance, similitude. Hein? Vous ne mettez pas un cheval et un bœuf sous le même joug. Homme et femme, c'est déjà assez différent. Mais c'est comme ça que la création a été faite, hein? Par la sexualité, homme, femme. Donc, il y a cette ressemblance sous le joug entre l'homme et femme. Quand il y a de l'inégalité, le partenaire faible agit comme un poids pour fatiguer l'autre. Et d'office sera abîmé. Hein? Encore, Genèse chapitre 2, 18, je le lis. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors ce mot, une aide semblable à lui, donc le semblable à lui veut dire qui lui convienne, ou qu'elle est auprès de lui, ça veut dire aussi elle est toujours devant sa face, ou de son côté. Vous voyez, Adam avait besoin d'Ève. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est pas bon. Tout seul, il ne pouvait pas gérer tout ce qui allait se passer dans la vie. Il avait besoin d'une femme. Adam était le chef. Il était l'autorité. Il était la tête dans l'ordre et l'organisation. Ève, de son côté, elle était son aide, une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. Une aide, ça veut dire un secours, une aide, le salut. Ça, c'est une des traductions de ce mot en hébreu. Un appui, sa compagne. C'est ça, je lui ferai une aide. Une aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire un secours, une aide, le salut, pas le salut de l'âme, mais le salut de ses problèmes dans la vie quotidienne. Et donc un appui, hein, comme on a dit la dernière fois, elle va épauler son mari. C'est un appui. Et puis sa compagne. Madame. Monsieur, madame. Hein? La dame va épauler son mari. Mais cela suppose qu'il y a quelque chose sur les épaules. Alors, monsieur, amenez votre femme là où vous souhaitez aller, sans forcer, sans brutalité, parce que ça fera pour vous un mauvais retour. Donc, allez doucement. Le joug signifie aussi, attention les hommes, que l'homme est apprivoisé. Le mari n'est plus l'étalon libre qui court à travers la Camargue. Madame a accepté les responsabilités domestiques. Eh bien, monsieur a accepté d'être domestiqué. Le joug signifie aussi la sexualité. Alors, il y a plusieurs choses que je voudrais dire sur ce sujet. Regardez Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 et verset 4. Hébreux chapitre 13 et verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de souillure. Premièrement, quoi que fait le monde autour de nous? Parce que le monde, si vous voulez vivre comme le monde, vous n'avez qu'à regarder la télévision, ou écouter les chants, et le monde va vous enseigner comment être un homme du monde. D'accord? Quoi que fait le monde, le chrétien honore le mariage. Ça, c'est l'optique chrétienne. Le chrétien honore le mariage. L'immoralité est toujours un péché. C'est un péché contre la nature de Dieu. Dieu est fidèle. Et l'immoralité, c'est l'infidélité, que ce soit la fornication, l'adultère, toutes les diverses formes. L'immoralité est contre le plan de Dieu pour le bonheur. Vous avez certainement observé combien les gens sont malheureux dans leur liberté sexuelle. C'est pour ça que les dames, elles passent de l'homme à l'homme à l'homme, elles ont un enfant, un autre enfant, chaque enfant avec un autre père. Parce qu'avec toute cette liberté, on n'a pas trouvé le bonheur. Parce que le bonheur se trouve en suivant les consignes de Dieu. Aussi, je voudrais mentionner que l'homosexualité n'est pas sexualité du tout. La sexualité suppose et prévoit la reproduction. Or, la homosexualité ne peut pas se reproduire. Elle est prédateur. Elle est parasite et souvent, elle est pédophile. L'homosexualité est tout simplement la sensualité déviée. Dieu nous a donné les émotions et la sensualité à l'intérieur du mariage. Mais l'homosexualité, c'est cette sensualité, mais débordée dans un sens très dévié. Personne ne se naît homosexuel, on devient homosexuel. Il n'y a pas de gène homosexuel. C'est justement, l'homosexualité est dans la nature pécheresse de l'homme. Et donc, c'est contre la nature de Dieu. Et puis donc, comme on a lu tout à l'heure, le lit conjugal. Le lit conjugal est à la fois pour l'épouse et pour l'époux. Ce n'est pas une affaire uniquement de l'homme. Tous les deux ont à apprendre à faire plaisir à l'autre. L'homme envers elle, elle envers lui. C'est la loi de Dieu. Regardez Genèse chapitre 1, verset 28 pour trouver le premier commandement. Genèse chapitre 1, Verset 28. C'est le premier commandement que Dieu donne à l'homme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Je m'arrête là dans la lecture. Pour dire que Dieu a dit exercer la sexualité. Il n'a pas uniquement créé Adam. Il a créé un couple et il a dit, allez vous reproduire, multipliez. C'est le premier commandement qui est dans la Bible. Envers l'homme. Regardez maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Versets 3, 4 et 5. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. L'homme et la femme, ni l'un ni l'autre, n'ont le droit à couper leur partenaire de leur relation dans le lit. C'est un péché. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Regardez aussi le verset 33. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Et le verset 34, la seconde partie, celle qui est mariée, donc la dame qui est mariée, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc Dieu nous donne du travail à l'homme, à l'homme et à la femme. Là encore, dans le domaine de la sexualité, l'homme devrait diriger en amenant sa femme là où il souhaite aller sans forcer. Alors, j'ai eu un seul conseil de ma mère quand je me suis marié. Un seul. Conseil. Elle a dit, soyez toujours d'accord sur ce que vous faites. Ça, c'était le seul conseil que ma mère m'a donné. La dame, elle, devrait savoir dire non. La jeune fille, la dame, doit dire non. Ça, c'est le droit que Dieu a donné à la femme, de dire non à l'homme. Et l'homme est obligé de respecter ça. Donc, mesdames et jeunes filles, dites non. Et si le garçon ou la femme, le garçon ou l'homme ne respecte pas ça, ce n'est pas la personne pour vous. Il ne vous respecte pas. En revanche, les dames doivent savoir que nous, les hommes, nous ne connaissons rien. Et c'est pour cela que la femme doit parler à son mari pour lui dire ce qu'elle désire, ce dont elle a besoin. Il faut communiquer. Et l'homme devrait apprendre ses leçons. Vous vous devez l'un à l'autre. Vous n'avez pas le droit de chercher vos plaisirs auprès des tierces personnes. Ça m'a toujours choqué. La manière catholique de présenter le couple. Il y a l'homme avec sa femme pure pour la reproduction et puis sa maîtresse à côté pour satisfaire ses plaisirs. Ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Ça, c'est la façon traditionnelle catholique et c'est pas bien. La femme est semblable, mais différente
de l'homme.
Quand Adam l'a vu, il a exprimé, comme j'ai dit tout à l'heure, son excitation. Enfin! Oh là là, elle est belle! Mais attention, elle est plus fragile. 1 Pierre 3, 7, chapitre 3, verset 7 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un vase plus faible. Honorez-la. Donc cette phrase, un vase plus faible ou plus délicat. Et c'est dans le sens, comme vous agissez, quand vous devriez traiter votre femme, comme vous agissez autour d'une personne malade. Quand vous avez quelqu'un malade, vous ne venez pas le secouer et vous dites, oh, on va faire ceci, faire là. Non, vous le traitez avec une certaine fragilité. Et c'est comme cela que la Bible dit que l'homme doit traiter sa femme. À travers le monde, les hommes abusent des femmes. C'est un fléau mondial, on en parle. Même en France aujourd'hui, on a une journée de la femme battue. Hein? Parce que c'est tellement répandu. Chez nous, les chrétiens, chez nous, on n'a pas le droit d'abuser ni de faire du mal à la femme. Ce n'est pas le... Vous n'avez pas le droit. Tout le monde a compris? Vous n'avez pas le droit. Jésus a toujours eu des égards pour la femme, pour les femmes, et il n'a jamais eu ni acte, ni parole violente envers elle. Jamais un chrétien ne devrait blesser une femme, ni émotionnellement, ça c'est vos paroles, messieurs, ni physiquement, avec vos mains ou vos pieds. Hein? Attention, ça ne devrait jamais arriver chez les chrétiens. Certes, dans tout couple, il y aura des conflits. Ah, même chez moi, évidemment, on est deux personnes différentes. Hein? Messieurs, soyez hommes. Soyez maître de vous-même. Surtout quand ça chauffe. Mordez votre langue. Manotez vos mains. Pas les siens, attention. Vos mains, messieurs. Hein? Vous n'avez jamais le droit de faire du mal à votre femme. C'est la femme que Dieu vous a donnée. Vous n'avez pas non plus le droit de retenir le bien ou la bonté de votre femme. Et c'est pareil pour madame. Madame, vous n'avez pas le droit à retenir le bien ou la bonté envers votre mari. Même si votre couple est difficile, ce qui est le cas pour plusieurs, n'est-ce pas? Même si votre couple est difficile, vous n'avez que le droit et le devoir de bénir votre femme. Vous la protégerez du mal, que ce mal soit à l'intérieur de votre famille, de votre foyer, ou que ce mal soit à l'extérieur de votre foyer. Messieurs, nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que vous voulez que votre femme, je remplace le mot homme, hein, tout ce que vous voulez que votre femme fasse pour vous, faites-le de même pour elle. Car c'est la loi et les prophètes. Montrez l'exemple. On a parlé avec les jeunes d'être un leader chrétien. Et le meilleur façon d'être un leader, d'être un dirigeant, c'est de montrer le bon exemple. Et les hommes dirigent leur famille en premier par leur exemple, que ça soit un bon exemple ou un mauvais exemple. Donc, montrez l'exemple, mais montrez le bon. Soyez chef, soyez modèle. Aime ton prochain comme toi-même. Si on appliquait cette règle du Seigneur Jésus-Christ à notre couple, c'est de côté, n'est-ce pas? Aime ton prochain comme toi-même, Eh bien, ça ira beaucoup mieux. Et qui est plus proche, le plus prochain que son conjoint? Pourquoi être gentil avec les voisins dans la rue, être méchant avec le conjoint ou la conjointe? C'est pas logique. Bien sûr, il faut être gentil avec le voisinage, mais commencez chez soi. Ainsi, donc aime donc ta femme comme toi-même. Et d'ailleurs, Paul dit dans Éphésiens chapitre 5 et verset 33, « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » Il a traduit la chose dans l'application envers sa femme. « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » Regardez dans Romains, chapitre 13 et verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne. Ça ne veut pas dire ne prenez pas les, n'empruntez pas. Ça, c'est pas la phrase. Cette phrase veut dire toute obligation doit être acquittée. Par exemple, dans le sens financier, vous avez emprunté l'argent, vous êtes engagé à rembourser 100 euros par mois, eh bien, vous remboursez 100 euros par mois sans faillir. Vous acquittez, vous quittez vos responsabilités, vos dettes, vos promesses, votre parole doit être bonne. Ça va tout le monde? C'est ça que cette phrase veut dire. Ne devez rien à, personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, l'amour est une dette que vous ne pourrez jamais terminer, acquitter. C'est pas possible. Parce qu'on a le devoir à toujours faire le bien. Toujours exprimer la bonté. Oh, mais je suis fatigué. Je laisse celui-là mourir. Non? C'est pas une bonne solution. On a toujours l'obligation envers le prochain et surtout envers le prochain le plus proche, c'est-à-dire votre femme. Nous avons cette dette d'amour qui n'est jamais acquittée. Si vous avez arrêté, d'aimer votre femme, vous péchez. Si vous avez arrêté d'aimer votre femme, vous péchez contre elle et contre Dieu. C'est aussi simple que ça. Encore dans Romains chapitre 13, mais le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que vous devriez faire du bien à votre femme. Faites le nécessaire pour gagner, pour regagner votre femme. Vous protégez votre femme, vous pourvoiriez pour ses conforts et vous pourvoyez pour son bien-être. Mais vous ne faites point de mal à votre prochain, c'est-à-dire à votre femme, dans le contexte du message. Regardez dans Éphésiens chapitre 5, verset 31. Éphésiens chapitre 5 et verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère. Il y a beaucoup d'influences qui jouent contre l'union du couple. Il y a la nature humaine de l'homme et de la femme. Il y a la belle famille. Combien de belles familles ont gâché tel ou tel mariage? Il y a les séducteurs. Il y a les séductrices. Il y a les enfants. Vous savez, un des plus grands raisons pour les divorces, c'est le sujet des enfants. Comment élever les enfants? Et le prochain, c'est les finances. Comment gérer le budget? On n'arrive pas à gérer ces deux grandes questions. Et chacun prend sa propre direction. Il y a aussi la culture qui est contre le couple. Il y a tant de choses qui sont contre votre couple. Et monsieur, vous avez à protéger votre femme de toutes ces choses-là. Et vous-même de toutes ces choses-là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la parole de Dieu qui vous le dit. Ce n'est pas moi qui ai créé ces phrases-là. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui dit l'homme doit quitter ses parents pour s'attacher à sa femme. Monsieur, vous devez couper la corde avec maman. Voilà. J'ai dit à mes garçons, votre mère, elle cuisine bien, mais vous ne devriez jamais dire ça à votre femme. Quand vous choisissez une femme, eh ben vous allez manger ce qu'elle va cuisiner. Hein? Voilà. Il ne faut pas faire une opposition, un conflit entre les deux dames. Oui, gardez les bonnes relations avec votre famille pour le bien de votre femme. Mais, il ne faut pas garder les bonnes relations avec votre famille pour le malheur de votre femme. C'est pour cela que votre choix de femme est tellement importante. En se mariant, on se lie non seulement avec le conjoint, mais on se lie également avec les belles familles. C'est grandement dommage si la femme n'est pas appréciée par la belle famille. Évidemment, vous allez choisir. Pour vous les jeunes, vous allez choisir la femme qui vous convienne. Mais combien mieux si vous avez introduit mademoiselle à la famille et qu'il y a une bonne relation qui commence avec la belle famille et dans l'avenir, quand c'est les vacances et les choses, et vous avez l'opportunité de revenir chez vous ensemble et non pas l'un parce que l'autre ne peut pas voir la belle famille. Il ne faut pas couper le couple. C'est une erreur. Quand madame va ailleurs, monsieur va voir ailleurs aussi. C'est pas bien ça. C'est un risque. Et on est dans la chair. Alors, j'ai trois conseils avant de terminer. Premièrement, vous devez du temps à votre mari. À votre femme, excusez-moi. Marie, vous devez du temps. Marie, vous devez du temps à votre femme. Voilà. Donc, ne travaillez pas trop et ne vous éloignez pas trop dans les associations sans qu'elle soit dans cette association avec vous. Alors, mon père, il allait chez les pompiers. Et il allait autant que possible. Je veux dire, autant que possible. Donc, c'était pas bien. Hein? Mais c'était son échappatoire du foyer. Hein? Et après, ça a été la Croix-Rouge. Mais c'était tout le temps. Numéro 2. Ne prétendez pas avoir toujours raison. Ne prétendez pas avoir toujours raison. Certes, personne n'aime avoir tort. Mais la confession ramène la paix. Et c'est ça qu'on veut dans la maison. On veut le bonheur, on veut la paix. et aussi permettre de nouveau un avenir. Vous savez, quand vous êtes têtu, « Oh, ben, c'est pas ma faute, j'ai rien fait de mal !» Quand c'est vrai, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que votre femme fasse? Qu'elle accepte votre mensonge? Vous voulez qu'elle vous fasse un bon repas et qu'elle fasse un dessert spectaculaire ce soir-là, ou pour la prochaine semaine, ou un jour dans l'avenir? Pas avant que vous confessiez, hein? Pas avant que vous reveniez à la vérité. Oui, d'accord, c'est ma faute, j'ai eu tort. Et c'est tellement plus simple de le dire tout de suite et régler l'affaire tout de suite. Vous savez, la Bible dit, avant que le soleil couche. Avant que le soleil couche. Finalement, monsieur, vous avez choisi votre femme. Elle a cédé son avenir, sa vie à vous. Hein? Eh bien, elle est donc votre responsabilité. Elle n'a pas gagné grande chose. Je me souviens dans mes cours de théologie, le professeur disait, eh bien, c'est vous qui avez tous gagné et votre femme n'a rien, elle n'a rien. Alors, on va dire, ah ben oui, je suis bien moi. Ah ben, c'est pas la bonne attitude. Hein? Ça, c'est plutôt égoïste. Et vous devrez, monsieur, voir ça de l'autre côté, que c'est vous qui a tous les bénéfices. Elle a ce qu'elle a. Vous êtes ce que vous êtes et elle a ce que vous êtes. Hein? Mais c'est vraiment, c'est vous qui va bénéficier le plus de votre mariage. Hein? Donc, c'est votre, elle est votre responsabilité. Elle n'a pas gagné grand chose. Donc, il faut respecter vos promesses envers elle, les espoirs que vous lui avez donnés. Ah, oh, mais si tu te maries avec moi, ah, qu'est-ce que vous avez dit? Hein? Ça n'est pas mentir si vous n'allez pas faire ça. Hein? Donc, ce que vous avez promis, ah ben, vous allez tout faire pour accomplir ces promesses-là. Hein? Autrement, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Elle va se sentir trahie et votre bonheur va être très précaire, hein? La précarité. Hein? Donc, ça c'est dommage de faire des promesses que vous n'allez pas maintenir ou que vous n'êtes pas capable de remplir. Donc là, je dis un peu plus pour les jeunes, hein? Il ne faut pas faire des grandes promesses, hein? Que vous ne pouvez pas faire. Ah ben, je serai milliardaire. Oh, bien sûr, bien sûr. Dans vos rêves. Hein? Mais écoute, si par hasard vous devenez milliardaire, hein, ça ne va pas gêner votre femme. Hein? Mais si vous donnez la promesse déjà, la promesse, eh bien, hein, vous allez gâcher votre vie. Hein? Donc, il ne faut pas faire des promesses qui ne sont pas honnêtes. Mais ce que vous promettez, eh bien, il faut le faire. Hein? Il faut le faire. Okay? On s'arrête là. Donc, on va prendre 5 minutes de pause. Et puis on va recommencer. Donc, on va prier. Un petit moment là. Je vais prier. Je vais arrêter cette machine, je n'aime pas enregistrer des prières.